Bonsoir. L'instant officiel hier mercredi à la base militaire de Kitona de la troisième phase du programme national de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants. Pour le vice-ministre de la Défense présent à la cérémonie, ce programme concerne plus de 4000 ex-combattants répartis dans les sites de Kitona et de Kamina. Quelle analyse faire du lancement de cette troisième phase du programme DDR? Nous en parlons avec Mohamed Boulé, il est député national de l'opposition et cadre du MLC. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est aussi général à la retraite. Bonsoir, honorable Mohamed Boulé.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Didier Bitaki, il est spécialiste en droit international et expert en question des groupes armés. Bonsoir, monsieur Didier Bitaki.
Bonsoir.
Et Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, voilà, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Lancement officiel hier mercredi à la base militaire de Kitona de la troisième phase du programme national de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants. Il s'agit de procéder à la formation qualifiante de ces ex-combattants, estimée à plus de 4000, répartis dans les sites de Kitona et de Kamina. C'est le vice-ministre de la Défense nationale qui en a présidé la cérémonie en présence de plusieurs partenaires, dont l'Union européenne, INPP, FAO et Caritas Congo. Des détails avec Askenzi Biatayoro qui revient de la base militaire de Kitona dans la province du Congo central.
Le début de cette formation aux divers métiers est perçu par ces démobilisés comme un signe d'espoir pour en finir avec leur calvaire dans ce centre de Kitona. L'INPP, Caritas Congo, FAO, Union européenne et d'autres partenaires du gouvernement engagés dans le programme des DDR vont apprendre à ces ex-combattants plusieurs métiers, entre autres la maçonnerie, la coupe-couture, l'agriculture et conduite d'automobile. Ces démobilisés disent être contents de ces différentes formations, mais ils s'inquiètent de la durée que va prendre l'apprentissage de tous ces métiers.
Nous sommes vraiment satisfaits, mais je doute fort que ce gouvernement réalisera tout ce qu'il vient de nous promettre ici. Parce que ça fait 2 ans que nous sommes dans le centre de Kitona, sans compter les centres où on nous regroupait dans nos provinces respectives.
Mais le vice-ministre de la Défense nationale les rassure, René Sibou.
Comme je leur ai dit, bientôt ils seront les responsables, chacun à son niveau. Le temps varie selon la nature de la formation, 3 mois, 6 mois. À la fin, ils vont bénéficier des kits, ils seront utiles, ils vont réintégrer la société. Du point de vue individuel, c'est très bon.
Sachez que le lancement de cette phase de DDR-3 avait débuté mardi dernier à la base militaire de Kamina, dans la province de Lualaba.
Merci à Askenzi Biatayoro. Julien Paloukou, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Alors, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Le gouvernement a procédé hier à Kitona au lancement de la troisième phase du DDR. Comment vous analysez cette troisième phase DDR?
Oui, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction parce que, comme vous le savez, avec toutes les guerres que nous avons connues, eh bien, l'autorité a décidé que tous ces groupes qui pilulaient à gauche, à droite, au nord, au sud, Kivu, en province orientale, devaient se retrouver. Et ce qui fait qu'on les a amenés à Kitona, à Kamina. Et pour nous, nous pensons que ce regroupement-là a constitué pour nos populations un ouf de soulagement. Parce qu'il y a beaucoup de criminels parmi eux qui nous ont quittés pour rejoindre ce processus. Donc, ce lancement-là est porteur d'espoir parce que c'est des centaines d'hommes qui hier étaient armés qui vont choisir la vie civile parce que, comme vous le savez, la loi sur les forces armées ne tolère plus qu'on intègre automatiquement les éléments issus des groupes armés au sein de nos FARDC. Voilà pourquoi nous pensons que ce processus-là va permettre d'abord de devoir les resocialiser parce qu'il comporte 2 volets. Il y a un volet éducation civique, patriotique, et même aux droits de l'homme, un volet qui concerne une formation, ce qu'on appelle les formations qualifiantes, c'est-à-dire des gens qui doivent apprendre le métier pour que demain, quand ils vont être réinsérés dans la vie, eh bien, ils soient insérés avec un avantage qu'ils amènent à la société au lieu d'être des facteurs de tuerie. Donc je crois que pour nous c'est un facteur important lorsque nous avons appris que le vice-ministre est allé lancer ce programme.
Oui, lancement porteur d'espoir comme vous venez de le dire. Monsieur le gouverneur, cette phase consiste concrètement en quoi?
Comme je venais de le dire tout à l'heure, ce programme ou ce lancement consiste à pouvoir déclencher le processus qui va aboutir à la réintégration des anciens éléments des groupes armés. Et il comporte deux grandes étapes. Il y a d'abord un regroupement au sein de ce qu'on appelle le centre de triage qui va durer, comme le vice-ministre l'a dit, près de 3 mois. Il s'agira ici de devoir laver presque le cerveau de ceux-là qui ont constitué hier les bourreaux dans certains milieux pour qu'ils comprennent que ce pays leur appartient, qu'on ne peut pas continuellement tenir les armes pour qu'il y ait ses semblables. Donc cette phase-là de 3 mois va être une phase capitale parce que c'est comme des cours d'éducation civique, des cours de resocialisation, des cours d'éducation morale, des cours même au sujet des droits humains, parce que beaucoup de gens qui ont été regroupés à Kamina ou à Kitona violent les droits sans savoir que c'est des violations auxquelles ils sont en train de se livrer. Et donc c'est une phase importante qui permettra maintenant d'arriver à la deuxième, celle où ces personnes qui ont déjà acquis cette formation sur les droits humains, sur l'éducation civique, peuvent maintenant à subir une formation pour qu'ils choisissent les filières qui les intéressent, qui deviendront des menuisiers, des chauffeurs, des boulangers, des éleveurs, des agriculteurs, pour qu'en rentrant maintenant chez eux, chacun soit utile à sa communauté, non pas à la Tioua, mais en apportant une plus-value par rapport au métier qu'il aura appris. Voilà globalement la synthèse de ces programmes.
Démobilisation, désarmement et réinsertion, monsieur le gouverneur, pour réussir ces processus, vous évaluez les coûts à combien? Il y a même de Butembo, l'auditeur John Odiane, qui dit ceci, c'est bien de lancer ces programmes de démobilisation, désarmement et réinsertion, mais il faut l'achever. Je me demande si ce programme est budgétisé.
Oui, tout à fait. Le programme a été budgétisé et le coût prévisionnel a été estimé à près de 85 milliards de dollars américains. 85 millions, je veux dire. 85 millions de dollars américains. Vous comprenez que ce n'est pas facile, peut-être pour le gouvernement, de trouver tout cet argent. Voilà pourquoi il y a des partenaires qui se sont montrés très intéressés par le programme parce qu'ils sont venus ici accompagner le processus de paix. Parce que vous savez, on regarde l'accord cadre qui a été signé, qui ne savait pas, en février 2013, eh bien, la RDC s'était engagée à devoir réformer son secteur de sécurité. C'est ainsi que dans ce programme, il y a la MONUSCO qui avait souscrit pour un certain nombre d'engagements. Il y a, par exemple, la FAO qui doit accompagner dans le secteur agricole. Il y a l'Union européenne, et que j'ai reçu dernièrement l'ambassade de l'Union européenne, qui également devrait accompagner. J'ai reçu même l'ambassadeur de France à Goma il y a quelques temps, qui a dit que la France va également accompagner ce désarmement, cette démobilisation et cette réinsertion et réintégration. Donc ces 85 millions de dollars, c'est à la fois la participation du gouvernement congolais et la participation des partenaires. Mais la phase dans son lancement actuel requiert d'abord la participation du gouvernement congolais qui a libéré quelques millions pour que le programme soit lancé.
Oui, cette phase intervient au lendemain d'un mouvement de colère des ex-combattants de cette base de Kitona qui réclamait leurs primes. Monsieur le gouverneur, peut-on lier le lancement de cette phase à cette manifestation de colère de ces ex-combattants?
Moi, je crois que ce qui est important, c'est l'objectif à atteindre. Vous savez que les combattants qui sont regroupés à Kitona depuis bientôt une année devaient s'impatienter parce que le programme ne commençait pas. Et je crois que la colère à laquelle nous avons tous assisté pouvait être liée à cette sorte de laxisme, selon leur propre terme, parce qu'ils sont restés longtemps. Et je crois que le gouvernement congolais a estimé qu'il était important, comme les moyens traînaient à venir, parce que les partenaires également avaient dit qu'ils allaient libérer quelques moyens, et les moyens étaient prêts à venir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a touché dans sa gibecière pour lancer le programme, ainsi amener les partenaires à devoir l'accompagner. Donc moi, je crois que l'important pour nous actuellement, c'est l'objectif à atteindre, amener ces gens à pouvoir quitter le stade des groupes armés pour comprendre qu'ils doivent désormais être réinsérés dans la vie communautaire pour participer à l'essor du développement.
Mohamed Boulay, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du MLC. Vous êtes membre de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi général à la retraite. Comment réagissez-vous au lancement de cette troisième phase du DDR à Kitona?
Oui, il faut s'en féliciter parce que cette troisième phase des DDR, si on la nomme ainsi, ce qui fait que précédemment, il y a eu la première et la deuxième phase. Je dois reconnaître que lors de la transition, il y a eu également un plan national DDR et avec l'implication de la communauté internationale qui a mis les moyens. Et lorsque la transition est finie, il fallait poursuivre parce qu'il fallait assainir les effectifs des forces armées, de ces groupes armés, et ces ex-combattants, pour que, au cours de ces processus qui commencent par l'identification et tout ça, de façon à ce qu'on puisse les préparer à devenir des bons citoyens, et in fine, ceux qui auront choisi s'y répondent aux critères, parce qu'il y a aussi, il faut concilier la loi organique ainsi les forces armées ainsi que les statuts, et finalement, il y a de ceux qui pourront être intégrés s'ils ne sont pas susceptible d'être à l'origine de certains crimes ou de certains méfaits commis par eux. Je crois que nous devons aussi noter que ça concerne plus l'Est, parce qu'il faut assainir l'Est avec ces groupes armés. Je me suis suffisamment informé auprès du ministère de la Défense nationale, sur base de supports que j'ai par devant moi ici. C'est plus l'Est qui est concerné parce que c'est là, c'est plus de 55 groupes armés pour ces effectifs-là de 4500. Donc ça concerne l'Itourie avec 384 ex-combattants, le Nord Kivu qui bat les records avec 2785 combattants, Sud Kivu 729, le Tanganyika 144, et le Haut-Katanga avec 393. Et donc, il est naturellement vrai qu'ils ont pris leur patience à mal pour se retrouver à attendre, parce qu'il y a des processus, il fallait trouver des financements. Nous sommes heureux parce que lorsque le Bureau international du travail, la FAO, le Caritas et l'UNPP et l'Union européenne, comme venait de dire le gouverneur, s'impliquent, ce qui fait qu'ils apportent quelque chose pour permettre de lancer et de poursuivre, d'aider le gouvernement avec les moyens consacrés pour poursuivre ces programmes.
Oui, honorable, chaque fois quand ce genre de manifestations sont organisées, les gens sont contents, ils font des promesses, il y a des promesses de la part du gouvernement, de la part des partenaires extérieurs. Vous avez même évoqué les plans DDR pendant la transition, mais on se rend compte après que ces processus n'aboutissent pas. Est-ce qu'il y a un problème de déficit de volonté politique ou une mauvaise gestion des ressources qui sont affectées à ces genres de processus?
Je crois qu'il faut, pour tout projet, il faut un bon montage. Il y a d'abord, on part du plan du programme national DDR et ensuite, on y adjoint les montages financiers qu'il faut pour dire, pour le traitement, par exemple, de 4000, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut l'hébergement, il faut identifier, il faut mettre les matériels pour que l'identification et la vérification pour l'orientation s'effacent. Et tout ça, il faut...
Donc il faut une conception rationnelle, une planification.
Une planification, programmation, études, programmation et planification. Et tout cela, les moyens financiers viennent aider la logistique nécessaire pour poursuivre cela. Et aussi... avoir le personnel qualifié pour pouvoir dispenser cette formation, comme la communauté internationale s'implique pour qu'ils aient une qualification. Et je le disais ici, la filière qu'ils proposent ici, qui se trouve être intéressante, parce que moi j'ai eu ce support en venant ici, je crois que chacun de ces éléments vont choisir
ceux qui voudront faire l'élevage, la mécanique autour, la coiffure et esthétique, parce qu'il faut s'en dire, il y a aussi des femmes ex-combattantes là-dedans, taxi moto, taxi automobile, agriculture, coupure, pêche, menuiserie, série, boulangerie, agistas et soudure, maçonnerie, briqueterie, artisanat, garde du parc, pourquoi pas, informaticien, peinture, bâtiment, électricité, transformation des produits agricoles, plomberie, gestion des déchets ménagers, industriels, pisciculture. C'est important. Quelqu'un qui n'avait aucune qualification, voilà l'occasion pour que dans 3-6 mois, c'est à ses compétences, parce qu'il faut s'en dire, j'ai m'appuie toujours sur ce support, il y a des licenciés parmi ces gens-là, jusqu'au non lisant, ceux qui n'ont rien appris, qui n'ont pas été sur les bancs de l'école, qui ne savent pas écrire, mais ils sont non lisants. Et donc, c'est pourquoi il faut les préparer psychologiquement, mentalement, pour que ceux qui ont choisi leur réinsertion puissent être préparés à réintégrer, à être réinsérés socialement dans les milieux où ils iront comme bons citoyens.
Honorable Mohamed Boulet, ce processus a 3 étapes principales, démobilisation, désarmement et réinsertion. À votre avis, quelle est l'étape fondamentale et qui, si elle est bien gérée, détermine la suite du processus?
Mais écoutez, il faut d'abord regrouper. Il faut d'abord que ces éléments-là se présentent de quelque part. Il faut les identifier et vérifier s'ils sont vraiment des ex-combattants avec des signes. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres qui peuvent profiter pour dire non, je veux me présenter tel. Il n'a aucun indice, parce qu'il y a encore que la gestion de ces groupes armés, on ne le sait pas trop bien s'il y a une administration. C'est pourquoi on exige qu'il apporte au moins une arme. Et de cette manière-là, et on essaie de remonter la structure à laquelle il a appartenu, et en ce moment-là, on passe dans l'autre étape, tout en ayant déjà vidé l'étape d'identification biométrique pour pouvoir tracer le parcours, et éventuellement, s'il se remet encore, s'il retourne, qu'on puisse quand même l'identifier sur base des données fiables qu'on garderait. Et si on rate l'identification, la vérification pour l'orientation, les restes des étapes qui vont suivre peuvent nécessairement être compromises.
Merci Didier Bitaki. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international et expert en question des groupes armés. Comment analysez-vous le lancement de cette 3e phase DDR?
Merci beaucoup, M. Guy Matrimé. Pour cette question, je pense qu'ici, sans tarder, nous sommes en train de naviguer à vue.
Pourquoi?
Pourquoi nous naviguons à vie? J'aimerais bien savoir, parce que c'est au cours d'une même émission comme celle-ci que nous avons eu à débattre de cette question. C'était, je pense, le 19 juin 2015,
avec l'ancien ministre de,
l'ex-ministre de
la Défense.
Et là, il s'agissait encore une fois du lancement de la question des DD3R, avec vous également. Mais je pense aussi que de cette façon-là, que nous sommes partis des DD3R, aujourd'hui on devait parler de la continuité. Aujourd'hui on devait savoir où est-ce que nous en sommes avec les DD3R. Mais je suis surpris aujourd'hui que vous me parliez encore une fois du lancement des DD3R. Je vous rappelle que le 25 juin 2015, nous étions partis, moi de Bitaki, avec le ministre de la Défense et quelques membres de son cabinet. Jusqu'à Kotako, lui, il y avait un problème de jeunes gens qui avaient des problèmes qu'ils posaient.
Après l'émission à laquelle vous avez fait allusion.
Exactement. Et nous sommes arrivés là-bas, il fallait procéder au DD3R. Nous avons pris combien d'éléments? Plus de 2800 qu'il fallait amener à Kamina pour qu'ils subissent une formation qui devait les amener à réintégrer la vie civile, qu'on appelle aujourd'hui la réinsertion. On devait également partir à Kitona pour la même opération. Nous avons lancé la rééducation, la réinsertion au niveau des Kamina. C'était le 6 juillet 2015. Et aujourd'hui, maintenant, voilà pourquoi est-ce que je suis surpris, c'est pourquoi j'ai dit, mais finalement, c'est de la simulation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous parlons encore du lancement des opérations DD3R? Le DD3R que nous avons lancé en juin, où en est le résultat? Où en sommes-nous? Quelle est la suite donnée à cela?
Est-ce et donc, que il fallait commencer par évaluer les premières phases.
Exactement.
Les deux premières phases.
Le DD3R ou les deux premières phases. On devait maintenant aujourd'hui parler de la phase du lancement jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fini la réintégration, la réinsertion, les rapatriements, ou alors ils n'ont pas encore fini? Voilà exactement là où moi je voudrais qu'aujourd'hui, si je débat avec mon papa Mohamed Diouf, avec son excellence, monsieur le gouverneur devait me dire, il y a autant d'éléments qui sont rentrés au Kivu, qui subissent un projet de réinsertion avec 1, 2, 3, 4 comme résultat pour stimuler ceux qui sont dans la brousse à quitter et s'intéresser à ce que les autres font sur le terrain par rapport au programme mis en place.
Vous êtes expert en question des groupes armés, et si vous êtes demandé de faire un bilan, n'est-ce pas, des premières phases, qu'est-ce que vous
non,
diriez?
Moi, je sais
que vous n'avez pas assez d'éléments.
Non mais écoutez, moi je parlerai de zéro, parce que quand on revient en arrière pour relancer, c'est-à-dire la première phase a échoué, la deuxième a échoué, maintenant on lance la troisième. Quelles sont les finalités? Quel est l'objectif exact que nous sommes en train de viser pour arriver à ce niveau-là? Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en train, il fallait d'ailleurs attendre que ces jeunes gens, encore une fois, se révoltent, qu'ils créent des dégâts, qu'ils déstabilisent la population, qu'ils créent du n'importe quoi, des chantages, pour qu'on relance. On va relancer combien de fois?
Alors, parce qu'il y a eu échec de phases précédentes, à votre avis, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cet échec?
Voilà. S'il faut parler des facteurs, les facteurs sont les suivants. Je vais me résumer. Est-ce que le DDR suppose la relégation même des combattants? Parce que tout le monde aujourd'hui, et de mauvaises langues d'ailleurs, je m'excuse de le dire ici, les mauvaises langues disent de la relégation, parlent de la relégation de ces combattants, de leur milieu d'origine, jusqu'à un endroit X où ils doivent être réinsérés. Dans quelle communauté? Le DDR suppose le désarmement. Le général à la retraite ici a parlé des phases de désarmement. Mais écoutez-moi, je veux parler d'une opération militaire stricte. Quand on parle de désarmement, c'est-à-dire vous avez commencé par le désengagement. Vous étiez engagé contre une force X. Vous vous désengagez. Autant que vous vous retirez, l'autre force se retire. On va vers la phase de démobilisation. Quand vous vous démobilisez, c'est-à-dire vous rendez les armes. Et ensuite, vous allez vers la réintégration ou la réinsertion. Ce sont des opérations qui se complètent. Mais où est-ce que ces jeunes gens ici qui se trouvent à Kamina et à Kitona avaient subi ce processus?
Donc, on ne devait pas les délocaliser.
Mais voilà, aujourd'hui, on parle de relégation. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans des milieux où ils se sentent en prison. Et quand ils sont en prison, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de faire en sorte qu'ils fassent des bruits.
Donc, ça, c'est un des facteurs qui explique cet échec.
Exactement, exactement.
L'autre facteur?
Le deuxième facteur, il n'y a pas de suivi. Qui s'en occupe? Là où ils se retrouvent, moi j'ai suivi, je viens de vous citer le parcours que j'ai fait avec des autorités de ce pays. Mais qui suit cette activité-là? Est-ce que ces jeunes gens n'ont-ils pas droit de retourner dans leur pays, dans leur milieu d'origine, dans leur province d'origine, pour y subir la réinsertion? Est-ce que la réinsertion, c'est au Katanga, quelqu'un qui vient de Masisi, vous les réinsérez à Katanga, ils s'intègrent dans quelle communauté? Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai dit, on ne doit pas citer les nombres. Je sais qu'on a cité, par exemple, 4200 combattants qui se retrouvent à Kamina et à Kitona. On a parlé de ceux qui étaient, disons, inéligibles à l'opération de réintégration de l'armée et ceux qui devaient rentrer dans leur milieu d'origine. Mais où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on les maintient là où ils sont? Voilà pourquoi je parle de relégation. Et les autres disent, ce sont des prisonniers relégués à Kamina, des prisonniers relégués à Kitona. On doit chercher à ramener ces gens vers leur milieu d'origine.
Merci, merci. Je vais vous redonner la parole, M. Didier Bitaki. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
John Kamau de Kinshasa. Le lancement de cette troisième phase est une bonne nouvelle, mais plusieurs questions méritent les réponses. 1. Quel bilan pour les deux premières? 2. Quels deviendront ces gens une fois hors base militaire? 3. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour que ces gens renoncent totalement à l'envie militaire? 4. Parce qu'il s'agira aussi du désarmement, le gouvernement est-il en mesure de nous détailler le type et la masse d'armement qu'il détenait, de sorte qu'une fois hors base militaire, que ces gens ne redeviennent pas un danger pour le paisible citoyen?
Monsieur le gouverneur Julien Paluku.
Oui, merci beaucoup. C'est beaucoup de questions à la fois. Quel bilan pour les deux premières phases? Moi, je crois que le premier bilan, c'est que la République démocratique du Congo a réussi à regrouper d'abord tous les ex-combattants pour les sortir dans les terrains de combat, pour les sortir dans les atrocités qu'ils commettaient à l'endroit de leurs semblables. Ça, c'est un premier bilan. Parce que lorsqu'on voit près de 4000 personnes qui se réunissent à gauche et à droite, on se dit, si ces gens continuent à être dans la communauté, dans la population, avec les armes, en train de se livrer à des tueries, eh bien aujourd'hui on assisterait à un cycle infernal de violence qui continuerait à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ça c'est un bilan pour moi qui est très très positif. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ou quelles sont les mesures que nous avons mises en place pour que ces gens ne rentrent pas dans la société commettre les mêmes dévues. Moi, je crois que la stratégie du gouvernement, et Bita qui a essayé un peu d'esquiver cette question, la stratégie du gouvernement, c'était d'abord d'éloigner les combattants de leur milieu naturel. Parce que par expérience, lorsque nous avons connu les anciennes opérations, qu'il s'agisse des brassages, des mixages, on a compris que le fait de continuer à insérer les gens immédiatement dans leur milieu où ils ont commis des atrocités, et on a assisté à un phénomène de recyclage. C'est-à-dire, les gens sont démobilisés le premier mois, et le deuxième mois, ils se retrouvent encore dans les groupes armés. Voilà pourquoi le gouvernement a pris la stratégie, tenant compte de l'expérience, de prendre tous ces gens, de les éloigner d'abord de leur milieu naturel, pour que, au loin de là où ils ont commis des atrocités, ils subissent cette éducation civique, cette moralisation, pour qu'ils ne soient pas tentés demain de devenir ou de se recycler dans l'un ou l'autre groupe armé qui se formerait sur telle colline. Je crois que ça, c'est très très important comme stratégie du gouvernement. Alors, quel type d'armes on a pu récupérer? Moi, je crois que la plupart de nos combattants, ceux qui nous suivent le savent, tous les combattants ne disposent pas des armes. Il y en a qui disposaient des machettes, il y en a qui disposaient des bâtons, il y en a qui étaient autour de 3 ou 4 armes. Vous avez ce qu'ils appellent bataillon chez eux, peut-être de 50 personnes, avec 3 armes autour desquelles ils agissent pour aller à gauche et à droite. Alors l'objectif, c'était de dire un combattant et une arme pour être démobilisé, mais on a dit, si on suivait cette procédure-là, de demander que chaque combattant amène son arme, eh bien on allait laisser beaucoup de criminels dans la société. Voilà pourquoi le gouvernement a estimé que même si quelqu'un ne détenait pas une arme, mais le fait qu'il se reconnaisse être combattant pour avoir participé à un groupe armé, il était éligible au programme. Voilà pourquoi, pour moi, je considère que les résultats auxquels on est arrivé aujourd'hui sont probants. Le fait qu'on les ait éloignés de leur milieu naturel, les amener à Kamina, les amener à Kitona, ce n'est pas une prison, c'est une stratégie du gouvernement. Eh bien, le gouvernement est libre de devoir adopter des stratégies qui lui a... qui sont de nature à lui permettre d'atteindre ses objectifs.
Oui, monsieur le gouverneur, vous avez suivi monsieur Didier Vitaki qui estime que avant de lancer cette troisième phase, il fallait commencer d'abord par évaluer les deux premières phases. Vous, en répondant à cette question, vous estimez que les deux phases ont réussi parce que vous avez notamment évoqué le regroupement de ces combattants qui était une réussite. Pour vous, c'est un point positif. Mais il y a un reportage qui est passé. Dans ce reportage, il y a un ex-combattant qui dit que le gouvernement, qu'il doute que le gouvernement puisse réaliser les promesses qui leur ont été faites. Quelles sont les garanties pour que cette troisième phase puisse réussir, à votre avis?
Oui, les garanties sont là. D'abord, le fait que le gouvernement est responsable. Deux, tous ces combattants, ce sont des Congolais. On ne les amène pas à Kitona ou à Kamina pour les sacrifier. Je crois que l'objectif pour le gouvernement, c'est une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Et tout ce que les gens doivent savoir, c'est que ce programme de désarmement, de démobilisation et de main de réinsertion se déroule dans un environnement où il y a encore des affrontements et des atrocités à l'est. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où, lorsqu'on amorce ce programme, il y a une situation paisible sur le terrain qui permet alors de faire une véritable procédure de démobilisation, de désarmement, de réinsertion. Ici, au même moment que les gens se trouvent à Kitona, au même moment que les gens se trouvent à Kamina, il y a encore d'autres groupes armés
qui font la loi, notamment à l'Est, lorsqu'on voit Wabikal avec Tcheka, Guidon, les FDLR, Abeni avec les EDF Nalou, c'est la raison pour laquelle il faut une prudence du gouvernement dans la gestion de cette question. Sinon, si on laisse ces gens à côté des autres groupes armés, on risque d'assister à ce phénomène de recyclage de tous les temps. Donc moi, je crois que la présence du gouvernement, je l'ai saluée lorsqu'il a pris la disposition de gérer au loin les groupes armés de leur base naturelle. Et la garantie pour moi est là, c'est la bonne foi qu'a le gouvernement de devoir asseoir une paix durable à l'est de la RDC.
Honorable Mohamed Boulay, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Amos Bissima de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Pourquoi avoir le plaisir de continuer à lancer les phases DDR des ex-combattants au moment où les précédentes ont créé plus de problèmes que de solutions? Les bénéficiaires de ce projet ne cessent de se plaindre du traitement inhumain dont ils font souvent l'objet dans l'État et après ils reçoivent difficilement les moyens pouvant leur permettre de s'intégrer dans la communauté à cause de la mégestion et des détournements des fonds à leur faveur par les gestionnaires. Ce qui pousse les concernés à se désengager de ce processus et trouvent mieux de rester dans des groupes armés ou à les réintégrer même après. Une situation qualifiée de cercle vicieux. L'important serait de faire d'abord l'évaluation des deux premières phases avant de lancer cette troisième. Dans le cas contraire, c'est de la pire distraction, de la mise en scène, voire de l'aventure ambiguë.
Vous voulez ?
Je ne crois pas que c'est un bon choix de signer et de persister pour rester dans les groupes armés, parce que ça constitue ni plus ni moins la haute trahison, parce que notre constitution le prévoit, que personne ne peut prendre des armes contre son pays. Et je crois que, prenons un exemple, lorsque, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des nos aïeux, des nos vieux militaires, qui n'avaient pas souscrit pour prolonger leur mandat, leur contrat de 7 ans renouvelable, ils ont été démobilisés. En les démobilisant, parce que j'ai eu quelques ancêtres dans ma famille, ils sont rentrés dans leur milieu d'origine. Et là, c'est l'affaire de l'administration locale. Tous les 3 mois, j'ai vu mes grands-parents partis pour répondre par devant l'administrateur du territoire. Les contrôles des mouvements des populations. Lorsqu'on est démobilisé, c'est pourquoi l'importance de l'identification et des vérifications avant l'orientation. Parce qu'ici, lorsqu'ils ont terminé cette phase-là de qualification pour avoir un métier, le ministère de la Défense, par les documents, les supports que j'ai par devant moi ici, a prévu la démobilisation par province de réintégration. Je vois ici, en ce qui concerne, par exemple, l'Ituri, Irumu, Aru, Djougou, Mambasa et Maagi, avec des effectifs ciblés après cette identification et vérification pour l'orientation. Lorsqu'ils auront terminé et qu'ils rentrent là-bas, grâce à ces éléments-là, à ces banques de données-là, biométriques, que va faire le ministère de la Défense? Parce que il y a des actions transversales avec les autres ministères, les ministères des Affaires sociales par exemple, ou de l'Emploi, pour se communiquer toutes ces informations afin de la traçabilité pour qu'une fois qu'ils sont mis en route pour les milliers d'origines, à condition que leur société, leur communauté ne les rejette pas, auquel cas, vérification pourquoi? Pour que ceux qui sont censés n'avoir pas commis des crimes ne puissent pas être mêlés par de ceux qui ont commis des problèmes et qui sont identifiés. Et dire que parce qu'il y a ceci et tout ça, et qu'on fait le choix pour rester demeuré dans les groupes armés où l'on n'est pas payé, pourquoi les deux bases, la capacité d'accueil de la base de Kamina et de la base de Kitona, j'en connais quelque chose, même pendant la transition, on les met là-bas pour qu'ils soient hors des endroits où ils ont été pendant plusieurs années dans les groupes armés. Il y en a 55 qui constituent cette partie Est, où chaque jour nous avons des problèmes. Et parmi ces ex-combattants, il y a aussi eu des étrangers. Et donc, ce n'est pas ici le cas de les dire, mais je le souligne, il faut nécessairement accepter
et de suivre ces troncs communs et in fine avoir cette qualification-là. Et lorsqu'on aura terminé, et on va et donc mettre en route tous ces éléments pour les provinces de leur intégration.
Et quel est votre point de vue par rapport à ces débats? Didier Bitaki a évoqué notamment la délocalisation de ces personnalités, de ces ex-combattants comme étant un des échecs de ces DDR. Il a même utilisé le terme relégation. Et le gouverneur, lui, qui dit que s'ils ont été délocalisés, c'est pour qu'ils ne soient pas tentés de se faire, n'est-ce pas, recruter une fois de plus dans ces groupes armés.
Voici ce qui s'est passé pour cette phase DDR pendant la transition. On a pris des ex-combattants et des autres provinces, de l'Équateur, de la province orientale, pour qu'ils se retrouvent à Kitona ou qu'ils se retrouvent à Kamina. Ce n'est pas la première fois. On est là parce que les conditions sont réunies pour la prise en charge, pour l'alimentation, pour les logements, pour les soins.
Et ces expériences ont produit des fruits escomptés?
Mais il y a, ça c'est un autre débat. Il y a eu des erreurs, parce que ce qu'on a fait dans la hâte, 2-3 mois après, on a parlé des mixages, j'ai entendu ici. Et en ce moment-là, nous avons aussi évoqué les faiblesses de ces mixages. Et maintenant là, qui sont, bien, la durée bien sûr, parce qu'il fallait trouver le financement. Et lorsque maintenant les financements sont là, je crois, à l'armée, on vient sans qualification. Mais imaginez des cas concrets. Le cas concret ici a été construit de 1922 à 55. Par qui? Par les militaires. On voit la réalisation de Kitukimos ici à Kinshasa. On voit la réalisation à travers la République de ce que fait le génie militaire. C'est comme dans d'autres pays. Je peux citer par exemple le Sénégal, où on voit le génie militaire réalisé. J'ai vécu ça, j'ai vu ça de mes propres yeux à l'île de Gorée. Et je peux encore vous citer un exemple, par exemple, de l'Égypte, où le génie militaire fait des réalisations des gens qui sont venus, qui n'avaient pas une qualification. Voilà qu'on leur donne cette occasion-là, où ils ne vont pas payer de frais scolaires, où ils ne vont rien payer à titre de ceci, pour qu'ils soient capable de se prendre en charge. Mais lorsqu'ils sont, avant d'être aux groupes armés, mais qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient soit des paysans ou bouviers, ou peut-être des faibles qui ne faisaient même pas l'agriculture. Et donc, lorsque l'occasion est donnée pour avoir une qualification, je crois, de bon sens, qu'il faut accepter cette formation, et après, accepter aussi la mise en route pour le retour vers l'ennemi et devenir des citoyens, des bons citoyens.
Merci, M. Didier Bitaki. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient, je crois, de Lubumbashi.
Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. La troisième phase des opérations DDR est lancée. Nous saluons cette opération. Mais où en est-on de la première et deuxième phase? Et quel bilan quand on sait que ces opérations n'aboutissent toujours pas aux résultats escomptés? Je pense que cette fois-ci, le gouvernement mettra tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans les erreurs précédentes. Car le chef de cette opération déverse un bon nombre de gens non orientés qui sont à la base de la sécurité dans des quartiers, villes et villages dans ces pays.
Je pense que l'auditeur de tout à l'heure vient me compléter et ne me pose aucune question. Écoutez, s'il vous plaît, je suis en train d'assister à des plébiscites qui ne constitue pas un débat en réalité. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai eu à évoquer la question des groupes qui se retrouvent dans différents endroits, notamment Kamina et Kitona. Parlons concrètement de ce qui existe. Est-ce que le fait qu'on ait pris 4200 combattants, on les amène à Kitona et à Kamina, on a résolu le problème? Aujourd'hui, il existe combien de combattants à l'est du pays? Aujourd'hui, il existe combien de groupes à l'est du pays? Quand nous avons décidé d'amener ces gens, je pense, à Kamina et à Kitona, on n'a pas dit que c'était la fin de tout, mais c'était un départ qui pouvait motiver ce qui reste. Voilà toute la question qui se pose. Je pense que quand on cherche des financements, il faut dire, nous avons réalisé 1, 2, 3. Et maintenant, nous manquons de moyens pour réaliser 4 et 5. C'est ça la question qui se pose. Aujourd'hui, ces ex-combattants réclament de retourner dans leur milieu d'origine. Parce qu'on n'en fait pas des militaires.
Ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils sont des militaires là où ils sont ou ils sont des civils? On en fait non plus des civils. Qui sont-ils?
Mais vous avez suivi le gouverneur Paluku avec sa préoccupation, c'est-à-dire qu'il voudrait éviter que ces gens ne puissent se faire recycler une fois de plus dans ces groupes armés.
Guy Maté, je vais bien, mais je vais poser aussi la question au gouverneur. Est-ce que le fait qu'on ait repris le 4200 de l'Ituri jusqu'au Nord Kivu, est-ce qu'on a mis fin à l'existence des groupes armés? Il a cité Tcheka. Pourquoi Tcheka existe? Est-ce qu'il n'a pas existé depuis 2008? Il a cité l'APCLS et bien d'autres.
C'est tout un processus. On a commencé par
quasiment. Voilà, mais ce sont ces mêmes combattants, ce sont ces mêmes groupes qui ont donné des combattants qui se retrouvent dans les cas aujourd'hui que nous citons. Mais pourquoi est-ce que leur départ n'a pas entraîné la dissolution des groupes existants? C'est ça la mauvaise politique. C'est ça la mauvaise définition même des stratégies qu'on devait adopter pour amener ces groupes à quitter totalement les maquis. Et nous avons donné des exemples. Nous avons donné des stratégies que les gens, que le gouvernement devait utiliser pour en finir. Quand vous amenez ces gens à Kitona et peut-être je ne sais pas où, vous ne résolvez pas les problèmes.
Et vous avez proposé quelle stratégie?
Nous avons dit ceci, le site de réinsertion. Parce qu'après tout, le processus désarmement, démobilisation, réintégration et consort, ça finit toujours par la réinsertion. La réinsertion, c'est-à-dire vous retournez à la vie civile. Est-ce que vous allez retourner à la vie civile à Kitona, vous qui êtes de Masisi? Est-ce que vous allez retourner à la vie civile à Kamina, vous qui êtes de Djougou? Vous devez retourner dans votre milieu d'origine. On vous crée une activité qui attire ceux qui sont restés dans le maquis, afin qu'eux aussi suivent le même processus tel que vous pour revenir à la vie civile comme vous.
Il faut tenir compte des milliers d'origine de ces combattants pour que ces processus puissent contribuer à la consolidation de la paix.
Non, mais bien sûr, parce que quand ils ont marché, quand ils ont réclamé de retourner chez eux, c'est pas Bita qui les avait poussés à faire cela, mais parce qu'ils cherchaient à ce qu'ils reviennent dans la vie civile chez eux pour bénéficier, disons, pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris dans les centres de formation et peut-être devenir couturier chez eux comme on est en train de le prétendre. Peut-être devenir éleveur et consort dans les milieux où il a quitté. Mais quand vous le maintenez là-bas, il n'est ni militaire ni civil. Il va se réintégrer dans quelle société? Il va se réintégrer dans quelle culture et dans quelle ville? C'est toute la question qu'il faut. Et nous avons proposé, moi-même personnellement, j'ai dit au ministre qu'il y a des choses qu'il faut recadrer. Et c'est notamment la mise en place des projets intégrateurs, qu'on n'est pas en train de citer ici. Un projet intégrateur vise à ramener le combattant ou l'ex-combattant à rejoindre la vie civile, mais moyennant une activité lucrative qui le fait abandonner définitivement l'idée d'utiliser l'arme pour survivre. Mais est-ce qu'on en a tenu compte?
Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission, vous allez conclure?
Si je voulais conclure, je m'aimerais dire ceci. Le processus des 3 heures est un processus du gouvernement congolais, de l'État congolais. J'appellerai aujourd'hui, et c'est un message que je lance même, si on veut parler de dialogue, si on veut parler de conciliation, c'est juste un message que je lance à la direction, à l'endroit même de ceux qui vont décider demain de ce qui doit devenir notre pays. Ce jeune gens qui souffrent dans les cas de démobilisation et consort ailleurs sont des Congolais, il y a lieu aujourd'hui, et il est même urgent de les rétablir dans leurs droits des citoyens congolais qui retournent dans leur milieu pour attirer les autres à abandonner la lutte armée.
Merci, honorable Mohamed Boulay. Votre conclusion, que faut-il pour que ce processus DDR puisse contribuer à la consolidation de la paix en RDC?
Mais c'est au travers les 3 à 6 mois ici de formation, selon les filières qui sont proposées ici, qui vont avoir un métier. J'ai la conviction, si l'INPP s'est engagé à ça, parce que l'INPP a l'expertise. Le cas, par exemple, de Kinshasa, j'ai suivi une fois qu'on a amené des enfants de la rue, des Cheguets, pour apprendre un métier qui, comme chauffeur, taximen. Mais lorsque ils ont déjà appris ces métiers-là, en ayant cette tranche de séjour de 3 à 6 mois, qui deviennent chauffeurs, qui deviennent qui plombiers, est-ce qu'il ne peut pas être utile pour la société? Je crois que le marché d'emploi peut trouver. Lorsqu'on a appris quelque chose, on va chez soi pour commencer à appliquer ce qu'on a appris et avoir un métier. Et donc, on ne peut pas d'emblée dire qu'il faut leur donner des financements et tout ça, mais je crois que c'est ça. Partout ailleurs, c'est la procédure qu'il faut. Merci. Nécessairement pour des pareilles situations.
Monsieur le gouverneur, quel faut-il pour que ce processus puisse consolider, contribuer à la consolidation de la paix en RDC? Ça sera votre conclusion.
Oui, d'abord, je dois dire que nous ne devons pas nous réjouir d'avoir les groupes armés. Tous ces groupes armés, le prix à payer, c'est ce qu'ils sont en train de subir là-bas. Et ce que nous devons faire ensemble comme gouvernement congolais, c'est de permettre de rééduquer ces gens pour que demain la RDC ne passe qu'une pluie dans les violences. Ceux qui ont pris les armes ne doivent pas croire qu'on doit les glorifier pour avoir tué leurs confrères, leurs consoeurs.
Merci.
Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où ils doivent être resocialisés pour qu'ils soient désormais utiles demain à la société.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Kéline Kouté, Berry Franklin Louchaka, sous la supervision de Julien Nyamoni, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.